Religion du monde. Geneviève Delru.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'enjeu de la visite du pape François à Madagascar, François qui célèbre ce matin une grand-messe à Tananarive, pour nous éclairer sur ce dossier malgache, nous allons entendre Sylvain Urfer, prêtre jésuite, bien connu sur la grande île où il s'est installé il y a 45 ans au milieu des pauvres et ils sont nombreux à Madagascar. Également au téléphone, une religieuse malgache, sœur Faratiana, qui nous dira ses attentes. Et puis en studio, dans le cadre du partenariat avec le quotidien La Croix, nous recevons Mélinée Le Priol qui est allée faire un grand reportage avant la venue du pape. Reportage publié dans La Croix de ce week-end. Nous ouvrons avec vous, Sylvain Urfer. Bonjour. Bonjour mon père.
Oui, bonjour madame.
Je présente votre longue carrière au service des Malgaches, longue carrière qui a commencé en 1974. Vous avez été enseignant, curé de la paroisse d'Anosibé, une paroisse pauvre de la capitale. Vous êtes un homme d'action, vous avez créé en 1989 le centre jésuite d'action sociale Foi et Justice. Vous êtes l'auteur de nombreuses publications et en 2001, vous avez créé l'Observatoire de la vie publique. Alors, cet observatoire, Sylvain Urfer, est-ce que c'est une sorte de vigie qui pointe du doigt tout ce qui dysfonctionne à Madagascar?
Oui, mais pas seulement. Parce que l'une des marques de la culture malgache, c'est de refuser l'affrontement. On n'ose pas critiquer, on ne veut pas perdre la face et on ne veut pas faire perdre la face à l'autre. Et donc, il faut éduquer la population à avoir un esprit critique qui constate ce qui est, prend le recul et le dise. Parallèlement, nous ne contentons pas de dénoncer, nous proposons toujours d'éventuelles alternatives aux dirigeants s'ils ont le courage d'entendre et de faire.
Alors, ce que vous décrivez, les mots de Madagascar, vous parlez de décomposition sociale, une décomposition sociale en cours, profonde et irréversible. C'est très pessimiste, irréversible.
Oui, la société malgache n'a jamais connu qu'elle-même depuis qu'elle existe. C'est le cas de toute l'Afrique subsaharienne, en gros, qui participe à la même culture de type familial élargie. La mondialisation met à mal cette culture, parce qu'elle ouvre les esprits, notamment des jeunes, qui ne supportent plus et de moins en moins le poids des obligations et des interdits qu'ils pressentent ou qu'ils vivent comme arbitraires et que leur imposent les anciens au nom de la coutume. Or, ce processus est en route, il va prendre encore une ou deux générations, il est, comme je disais, irréversible. Il faut faire avec, et c'est là-dedans qu'il faut travailler pour qu'émerge une société nouvelle, fidèle à ses valeurs traditionnelles à l'avenir.
Mais une société, effectivement, avec des jeunes qui se sentent acteurs de leur destin.
Ça, c'est tout le problème. Si on laisse faire la logique de cette décomposition sociale, on arrivera à une société où règne l'anarchie, où prédomine la violence et l'individualisme. C'est déjà parti pour ça. On en voit les prémices dans la société actuelle. Mais ce n'est pas une fatalité. Je pense qu'on peut remonter la pente en acquérant surtout la confiance des jeunes, fruit de la proximité et de l'intérêt qu'on leur porte. Et à partir de là, j'en ai fait l'expérience, il est possible de les faire réfléchir et de leur réinjecter en quelque sorte les valeurs traditionnelles dont ils rejettent la forme d'expression. Il y a deux choses différentes.
Père Sylvain Urfer, là vous évoquez la question effectivement de la mondialisation, des jeunes face à la mondialisation. Vous ne parlez pas là de la corruption qui est quand même le facteur numéro un, on va dire, dans les causes de la grande pauvreté à Madagascar.
Oui, enfin la grande cause c'est la corruption de la pseudo-élite qui dirige le pays. C'est elle qui empoche pratiquement tout ce que gagne le travail des ouvriers et des paysans du pays. Ce sont des prédateurs. Par contre, la petite corruption, elle est généralisée, c'est vrai. Mais tout ça, c'est aussi pour moi le fait de la décomposition sociale Et j'allais dire, ce n'est pas en affrontant directement, frontalement la corruption qu'on arrivera à la surmonter. Il faut assainir les causes qui la provoquent, en particulier cette décomposition sociale et la perte de repères.
Du côté de l'Église, également vous pointez du doigt, Père Sylvain Hurfer, une Église qui reste enfermée dans ses bastions et une Église marquée par un cléricalisme extrême. Alors décrivez-nous ce cléricalisme.
L'évangélisation de Madagascar a été menée en très grande partie par les laïcs à la fin du XIXe siècle. Ce sont les laïcs qui ont construit cette Église et qui ont continué à agir, d'autant plus que le nombre de missionnaires était très faible. Aujourd'hui, on a un nombre impressionnant de jeunes qui sortent des grands séminaires et qui sont ordonnés prêtres. Et ces prêtres, eh bien, ils ont occupé le terrain. Et ça se fait malheureusement au détriment de l'action des laïcs. Les laïcs sont refoulés. On ne leur donne pas de responsabilité. Et ça joue à la fois sur l'exercice du pouvoir dans les institutions qui sont encore apparemment très fortes, et sur l'usage de l'argent. Les deux choses qui découragent beaucoup les laïcs les plus engagés, qui à la longue s'en vont, passent ailleurs ou ne font plus rien dans le cadre ecclésial. Ça, c'est la situation qui correspond exactement à ce que le diagnostic que fait le pape François pour beaucoup d'autres pays du monde.
Et les pays du Sud notamment.
Nous sommes dedans.
Que peut-on attendre de cette visite qui s'achève donc ce soir, on va dire, puisque le pape lundi fait un aller-retour à l'île Maurice et repartira de Tananarive mardi matin pour Rome. Qu'est-ce que l'on peut attendre de cette visite?
Tout dépendra de la manière dont les responsables à la fois politiques se sentiront concernés et agiront en conséquence, et surtout de la manière dont les responsables religieux accueilleront ce message et le feront passer dans la population. Il y a une attente très forte. Je crains parfois que cela reste au plan du sentiment. On a vu avec Jean-Paul II il y a 30 ans, il est venu, ça a été un délire populaire. Mais il n'y a pas eu d'effet durable et profond sur le fonctionnement ecclésial, sur la pastorale, sur la manière de s'approcher des plus pauvres, etc. C'est un peu ce qui est à craindre. Ceci dit, je crois qu'il y a quand même un degré de lucidité plus fort aujourd'hui dans l'Église auprès des responsables, de certains évêques, de quelques curés aussi, quand même, ça existe, et qui en veulent. Donc, je ne suis pas pessimiste, mais je pense qu'il faudra faire très attention à l'efficacité, à la réalité du suivi de ce qui sera dit.
Oui, à la mise en application. Je vous remercie, Père Sylvain Hurfer. Je rappelle que vous êtes membre de l'Observatoire de la vie publique. Merci.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir. Et toujours avec nous en ligne, une religieuse, Sœur Faratiana, religieuse de la Congrégation des Sœurs Missionnaires de l'Évangile. Ma sœur, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes religieuse malgache et vous, ce que vous attendez, c'est ce que vous m'avez dit, c'est que le pape touche la conscience des hommes politiques. Et là, vous pensez essentiellement à quoi? À la corruption? Au népotisme?
Oui, parce que à Madagascar, depuis toujours, il y avait la corruption. Mais maintenant, avec le nouveau président, lui, il veut combattre aussi, même lui-même. Donc il y a cet espoir de combattre la corruption et aussi de combattre contre l'insécurité dans le pays.
L'insécurité est due bien sûr à la grande pauvreté.
Oui, voilà. Il y a un espoir pour le développement et favoriser l'éducation des jeunes. Et je veux emprunter le terme de notre cardinal Désiré Tsaraas, qui dit souvent que notre pays avance si tous ses dirigeants politiques vivent vraiment leur foi car ils se disent chrétiens. Donc si un chrétien, il pense à son frère avant de penser à lui-même et à sa famille.
Vous voulez dire qu'il y a un certain nombre d'hommes politiques chrétiens qui vivent en contradiction avec leur foi.
Voilà, il y en a qui se cachent derrière ça, mais...
En fait, vous voulez qu'il y ait un double discours qui s'arrête. Hein.
Voilà.
Est-ce que vous êtes optimiste par rapport aux retombées de cette visite? Je posais la question au père Sylvain Urfer, qui espère effectivement que les paroles du pape porteront, seront entendues. Est-ce que vous aussi, vous pensez que ces paroles peuvent avoir une influence?
Je pense, parce que dans le logo de la visite du pape, ils disent que ce meurt de paix et d'espérance. Donc, je pense et j'espère, et tous ces malgaches-là espèrent que cette visite du pape apporte grande chose dans notre pays et qu'il sera entendu par tous ces dirigeants et tous les malgaches.
Alors, vous espérez aussi, sœur Faratiana, que le pape encourage la foi. Pourtant, les malgaches, dans l'ensemble, ont la foi.
Oui, les malgaches, dans l'ensemble, ont la foi, mais que cette foi doit se redynamiser. Et aussi que le pape encourage aussi le malgache dans l'engagement à vivre davantage une vie chrétienne vivante et que l'Église n'ait pas peur de s'engager dans la société et que ce soit vraiment un vrai encouragement.
Et on poursuit avec la visite du pape François à Madagascar. Avec Mélinée Le Priol, journaliste au service religion du quotidien La Croix, qui est allée au mois d'août à Madagascar faire un grand reportage, et un grand reportage qui est publié ce week-end dans les pages de La Croix. Mélinée Le Priol, bonjour.
Bonjour Geneviève.
Vous insistez beaucoup dans les différents articles donc publiés ce week-end sur la ferveur à Madagascar, ferveur effectivement qu'on va voir ce matin puisqu'il y a une grande messe avec le pape.
Je crois que dans la culture traditionnelle malgache, la religion est aussi très présente. Le culte des ancêtres est très présent, encore aujourd'hui. Et ça, je l'ai vu, des personnes qui pratiquent encore des cérémonies très impressionnantes, par exemple, celle qu'on appelle le retournement des morts, l'exhumation. De temps à autre, tous les 5-6 ans, on ouvre le tombeau familial et on sort les ancêtres pour leur rendre hommage, en quelque sorte. C'est très festif. Et puis, on nettoie leurs restes et on les réenveloppe dans d'autres linges. Donc ça, c'est présent et je pense pas que ce soit lié à la pauvreté. C'est vraiment inhérent à cette culture traditionnelle.
Et chez les protestants, par exemple, des grands récits fondateurs sont très présents dans leurs discours.
Exactement. J'ai rencontré notamment des protestants réformés qui sont très présents sur l'île, parce que l'île est donc à moitié chrétienne, à peu près, en termes de population. Et sur ces chrétiens, c'est environ moitié-moitié aussi catholique et protestant. Donc il y a une forte présence protestante, luthérienne et réformée, et anglicane. Et notamment chez les réformés, j'ai rencontré des gens qui me parlaient de tout un tas de croyances, de récits liés à l'histoire de Madagascar, qui serait géologiquement même le cœur du monde, le berceau de l'humanité, et selon eux, le lieu où la Genèse se serait déroulée. Donc il me disait que les noms malgaches avaient des origines hébraïques, etc. Donc on voit que c'est vraiment une île où les croyances fleurissent énormément et quelle que soit la filiation religieuse.
Alors, les églises protestantes, donc sont à peu près la moitié effectivement des chrétiens à Madagascar, les églises historiques sont toujours très, très présentes. Est-ce qu'elles ne sont pas elles-mêmes concurrencées par ce qu'on peut appeler les sectes évangéliques ou en tout cas les nouvelles églises évangéliques?
Très clairement, il y a cette concurrence. Toutes les personnes des églises historiques, comme vous dites, m'en ont parlé, sont un petit peu préoccupées de voir que il y a ces nouveaux mouvements qui sont difficiles à qualifier, mais qui gagnent du terrain. Et vraiment, c'est impressionnant quand on est dans une voiture sur une route à Madagascar, le nombre de panneaux sur les côtés qui indiquent ici église Apocalypse, ici église Jésus sauve, etc. Il y a vraiment énormément de petites églises comme celle-là, et j'ai pu participer à un culte dans cette secte Apocalypse qui est énorme, qui revendique 1 million de membres dans le pays. Voilà, rien que là, c'était un samedi normal, entre guillemets. C'est des cérémonies qui durent 7 heures avec à peu près 4000 personnes dans un grand hangar, etc. Enfin, donc c'est assez impressionnant. Tout le monde est habillé en blanc et en bleu. C'est très codifié. Et voilà, il y a la croyance en 2 Jésus différents. Donc c'est des croyances qui sont vraiment alternatives par rapport à la foi traditionnelle.
Pourquoi 2 Jésus différents?
Alors, ils disent qu'il y a un Jésus qui est mort le mercredi et ressuscité le samedi, et un autre qui est mort le vendredi et ressuscité le dimanche. Et tout le monde se trompe en célébrant la résurrection le dimanche, parce qu'en réalité, la vraie résurrection, elle doit se célébrer le samedi. Et donc, eux, leur jour de fête, c'est le samedi. Enfin, il y a tout un tas de choses. Ils mangent pas de porc. Enfin, voilà. Et c'est vraiment, ça gagne beaucoup de terrain dans les églises traditionnelles, puisque c'est essentiellement des gens qui se sont convertis ces 10 ou 15 dernières années. Donc, c'était des fidèles catholiques ou protestants.
Et là, qui se sont convertis parce que attirés par ce qu'on appelle la théologie de la prospérité, c'est ça ?
Entre autres, effectivement, oui. C'est souvent des mouvements qui disent que Dieu souhaite pour son peuple, pour les hommes, plus de richesses, et donc en venant ici, ils seront plus riches, etc. Donc il y a ces discours-là, et puis il y a tout aussi, il y a, je pense, un attrait pour les mystères. Par exemple, cette secte Apocalypse, le pasteur qui est à sa tête dit « Moi, on m'a révélé les mystères de l'Apocalypse de Saint Jean. Donc si vous participez à mes cultes, vous aurez un peu le secret. »
Oui, c'est ça. Voilà. Accès au mystère.
Exactement.
Et ça fonctionne.
C'est attrayant.
Les mosquées se multiplient à Madagascar et vous relevez l'inquiétude des habitants. Alors, qu'en est-il réellement ?
Alors, à Madagascar, il y a toujours eu une présence musulmane, hein, essentiellement concentrée sur les côtes. Donc, c'était des populations d'origine comorienne ou indo-pakistanaise. Mais c'est vrai que ces dernières années, il semblerait qu'il y ait un accroissement de la présence musulmane, y compris dans les terres, y compris en brousse. Donc, tout ça, c'est nouveau. Et ça inquiète beaucoup, notamment les autorités religieuses et notamment les catholiques. Ça mérite vraiment une enquête plus approfondie. Mais en tout cas, c'est un sujet qui revient beaucoup, cette montée de l'islam, qui serait financé par des pays du Golfe notamment, et qui inquiète beaucoup les Malgaches, qu'ils se disent on profite de notre pauvreté pour nous convertir à nos dépens.
Alors vous citez quand même dans cet article hein, sur Madagascar, publié ce week-end, cette histoire d'une famille qui n'avait pas assez d'argent pour payer la cantine, c'est ça, hein, de l'école. C'était pourtant l'équivalent d'un dixième, c'est ça, de centimes d'euros. Et finalement, les parents sont allés à l'école coranique à côté.
Oui. Ça, c'est des choses que j'ai entendues dans des communautés religieuses catholiques qui me disaient... Donc là, c'était une inscription pour l'école d'une manière générale, mais c'est pas non plus très cher. Mais effectivement, c'était quand même difficile pour cette famille-là. Donc, elles avaient essayé quand même de dire « il faut payer quand même, on a des frais, etc. » Et puis, la famille avait disparu de la circulation parce que juste à côté, il y a tout un centre, en fait, que j'ai visité, islamique, chiite, qui propose une école gratuite et puis des aides aussi... pour les soins.
Alors, les églises hein, protestantes et catholiques sont très présentes sur le terrain social, à travers les écoles, les dispensaires, etc. Pas suffisamment pour garder, si je puis dire, la population, pour garder les catholiques et les protestants. Enfin, je parle des protestants historiques, hein, pour ne pas aller dans les nouvelles églises ou les nouvelles sectes.
Oui. En tout cas, j'ai des personnes, notamment des personnes haut placées dans la hiérarchie des églises, qui vraiment se remettaient en cause, qui disaient « s'il y a autant de gens qui partent, c'est que notre offre, entre guillemets, ne convient plus ». Donc, je pense qu'il y a une conscience que quelque chose n'est peut-être pas ajusté. Moi, de ce que j'ai pu percevoir, je pense qu'il y a quand même un décalage, presque sociologique aussi, entre le clergé malgache et la population qui est vraiment très très pauvre. Et donc j'ai eu l'impression parfois d'un rapport à la richesse dans l'église qui pouvait ne pas convenir à tout le monde, qui pouvait être un petit peu dans une forme de faste et d'affichage la pauvreté évangélique n'est peut-être pas encore très bien compris par toute l'église de Madagascar.
Et la question des vocations précisément, est-ce que certains jeunes seraient attirés par la prêtrise aussi pour des questions, j'allais dire deux fois bien sûr, mais
donc
de confort
matériel,
voilà exactement.
Oui.
Est-ce que c'est aussi un des points sur lequel effectivement on peut réfléchir à Madagascar ?
C'est sûr, oui. Ça c'est même les gens de l'Église le disent que là-dessus il y a sans doute des mauvaises compréhensions. Après ils disent aussi que le séminaire c'est un parcours très long, que la vocation a le temps d'être discernée, donc qu'a priori la personne qui rentre pas pour les bonnes raisons aura le temps de se décourager avant la fin de la formation. Mais il semblerait quand même qu'il y ait des prêtres à Madagascar qui du coup, parce que la vocation n'a pas été bien discernée, ont des comportements qui sont parfois un peu déviants, avec des doubles vies, avec des problèmes d'argent, etc.
Et de détournement d'argent.
De détournement d'argent.
C'est ça, oui. Mmh. Et ce décalage que vous décrivez, Mélinée Le Priol, entre une partie du clergé et les fidèles très pauvres, eh bien, peut entraîner même des dégradations d'église et des vols de cloches. On va même jusqu'à voler des cloches. Mmh. La question d'ailleurs de l'insécurité du vol, évidemment, est extrêmement prégnante à Madagascar.
Oui, il y a vraiment une hausse, notamment des vols, et effectivement, les communautés religieuses sont touchées parce que, précisément, elles sont visibles, on sait qu'elles ont de l'argent. J'ai rencontré des religieuses qui avaient été cambriolées à 5 reprises en 5 ans. Donc, tous les ans, elles avaient eu au moins un cambriolage, et parfois armé. Donc, c'est sûr qu'il y a des convoitises. Donc, je pense qu'il y a une vraie question là-dessus, sur la question de la richesse. Il y a une vraie question pour l'Église catholique à Madagascar.
Jo, merci. Merci Mélinée Le Priol. Je rappelle donc, vous signez ce week-end votre grand reportage dans les pages de La Croix. Merci.
Merci à vous.
L'Église est un chemin très simple finalement. C'est le chemin de la paix des cœurs. Parce que, voyez, aucun effort d'ordre politique qui sont nécessaires ne peut durer s'il ne s'accompagne pas de la paix des cœurs, c'est-à-dire d'une paix qui va jusqu'à la réconciliation, jusqu'au pardon.
Une grande voix de l'Église s'est éteinte, un large sourire s'est refermé, le cardinal Roger Etchegaray, né à Espelette en 1922, est décédé mercredi dernier à 96 ans dans sa région natale des Pyrénées-Atlantiques. Celui qui fut archevêque de Marseille, président de la Conférence épiscopale de France, restera l'homme des missions secrètes et difficiles, le diplomate de Jean-Paul II au service de la paix dans le monde qu'il ne cessera de parcourir. De Maputo, première étape de son voyage dans l'océan Indien, le pape François a salué l'homme de dialogue et de paix. Le journaliste essayiste Bernard Lecomte, spécialiste de la vie de l'Église, du Vatican, de la diplomatie vaticane, avait publié un livre d'entretien en 2007 avec le cardinal Etchegaray, « J'ai senti battre le cœur du monde », c'est son titre. Ce livre va sortir en poche chez Texto dans 3 semaines. Bernard Lecomte, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous avait incité en 2007 à rencontrer le cardinal Roger Etchegaray? Est-ce que c'est parce que c'était un diplomate particulièrement affable?
L'éditeur Claude Durand, le patron des éditions Fayard, cherchait à faire le portrait ou des mémoires avec un homme d'église qui soit particulièrement emblématique. Et à force de chercher, on s'est dit que l'homme le plus emblématique de l'histoire de l'église moderne, c'était le cardinal Etchegaray. Pourquoi ? Parce que au fond, de son entrée au séminaire pendant la guerre jusqu'à son élection comme vice-doyen du Sacré Collège, c'est-à-dire grosso modo numéro 4 de l'Église mondiale, eh bien cet homme avait incarné toute l'histoire de l'Église pendant toutes ces décennies. Histoire en France d'abord, puisqu'il a, il a tout été en France, cet homme-là. De petit prêtre de Bayonne, vous l'avez rappelé, secrétaire de l'épiscopat français, président de la conférence des évêques, etc. Il a tout été en France, et surtout, bien sûr, archevêque de Marseille, qui restera un très grand moment de sa vie. Et puis au niveau mondial, quand Jean-Paul II, le pape polonais, qu'il connaissait bien depuis longtemps, l'appelle auprès de lui à Rome, il va rester tout le pontificat de Jean-Paul II à ce poste extraordinaire de la diplomatie parallèle du Vatican, c'est-à-dire que à la tête de Justice et Paix, c'est un dicaster qui s'appelle comme ça, un ministère, à la tête de Justice et Paix, il va faire toutes les missions secrètes du pape pendant 2 décennies, ce qui, évidemment, est énorme. Voilà pourquoi on avait choisi le cardinal Etchegaray, et voilà pourquoi j'ai eu cette chance extraordinaire de passer 2 ans à l'accompagner dans la rédaction de ses mémoires.
Alors, il va beaucoup voyager, il va passer son temps quasiment à voyager sur, j'allais dire, toutes les fractures du monde, hein, les zones de guerre, mais aussi sur des terrains difficiles. Par exemple, là, je pense à Cuba. Hein, il va quand même être un des hommes qui va permettre la venue du pape Jean-Paul II à Cuba.
Oui, tout à fait. Toute l'histoire des voyages des papes à Cuba, puisqu'il y en a eu plusieurs, Jean-Paul II, Benoît XVI et le pape François, toute l'histoire de ces voyages commence en effet par la mission tout à fait secrète et tout à fait extraordinaire du cardinal Echegaray qui va rencontrer Fidel Castro à Cuba, c'était en 1988, et donc bien avant toute perestroïka, toute ouverture de Cuba au monde, etc. Et je me souviendrai toute ma vie du récit extraordinaire que le cardinal m'a fait de cette nuit avec Fidel Castro, en tête à tête, dans le palais gouvernemental de la Havane, où Fidel Castro lui pose toute une série de questions sur l'Église, sur Jésus, sur l'Évangile, qu'est-ce que c'est qu'une encyclique, etc. Et les deux hommes finissent par parler de leurs parents, de leurs proches, et Echegaray dit à Fidel Castro, mais vous savez, votre maman nous entend de là-haut, et Fidel Castro, les larmes aux yeux, lui tombe dans les bras. C'était un moment incroyable de l'histoire entre le monde communiste et le monde catholique, résumé à ce tête-à-tête exceptionnel entre ces deux hommes d'exception eux-mêmes.
Oui, effectivement, c'est pas ce que l'on se représentait du leader Maximo. Il y a des zones du monde qui lui tiennent particulièrement à cœur, la Terre Sainte.
La Terre Sainte, évidemment, il y est allé des dizaines de fois. C'est d'ailleurs lui auquel Jean-Paul II confie, vous vous rappelez, le grand jubilé du troisième millénaire, c'est-à-dire le grand jubilé de l'an 2000, avec toutes ces rencontres qui tournent autour de ce pèlerinage de mars 2000 en Terre Sainte. Rappelez-vous, c'est là où Jean-Paul II, la main déjà tremblante, glisse cette prière dans le mur des lamentations, qui représentera pour l'avenir le rapprochement entre les catholiques et les juifs, que ce pape avait tout à fait au cœur, et que le cardinal Echegaray a eu à réaliser dans les faits.
C'était un homme, on peut dire, modeste, malgré toutes ses rencontres avec les grands de ce monde. Il avait gardé une modestie.
Alors, vous savez, pour être très franc, je ne dirais pas modeste, je dirais humble et discret.
Ce qui n'est pas pareil, tout à fait la même chose. Absolument.
Vous voyez ce que je veux dire? Il avait conscience de son rôle, Echegaray. Et en même temps, je l'ai rencontré des dizaines et des dizaines de fois. C'était toujours l'homme simple, l'homme au grand sourire. Quand on arrivait chez lui, au Palais San Callisto à Rome, tout de suite il vous emmenait dans sa petite chapelle privée en disant « N'oublions pas qui commande ici, il faut commencer par une prière ». Et après, c'était toujours très simple, beaucoup encore une fois, d'humilité, de simplicité. C'était un homme qui, au fond, aurait pu terminer pape, hein, si le destin avait été différent. Mais il est resté cette espèce de curé basque, avec, les pas de montagnard, je dirais. Quand il vous recevait avec son accent rocailleux, c'était toujours, on avait toujours l'impression de se retrouver quelque part à Espelette, au cœur du Pays Basque.
Ces obsèques, donc, seront célébrées lundi prochain, normalement, dans la cathédrale de Bayonne. Je vous remercie, Bernard Lecomte, pour ce portrait du cardinal Echegaray. Merci.
Vous pouvez réécouter Religion du Monde sur www.rfi.fr.
L'enseignement des religions à l'école en France est un peu le serpent de mer depuis la publication en 2002 du rapport Debray, du nom du philosophe Régis Debray, qui affirmait l'importance de reconnaître et d'enseigner le fait religieux à l'école, ce qui avait alors déclenché des réactions du côté des tenants d'une laïcité stricte. Alors, peut-on parler des religions à l'école? C'est la question posée par Isabelle Saint-Martin, notre invitée, question qui est le titre de son livre publié chez Albin Michel. Isabelle Saint-Martin, bonjour.
Bonjour.
L'enseignement des religions est au cœur de votre parcours universitaire et professionnel. Vous avez été chargée de mission auprès de Régis Debray pour ce fameux rapport et vous avez été de 2011 à 2018 la directrice de l'IESR, l'Institut européen en sciences des religions, au sein de l'école pratique des hautes études, institut donc créé en 2002. Et ce livre a le mérite de faire le point sur un sujet dont on parle souvent, à chaque rentrée, comme je l'évoquais, mais que dans le fond on connaît peu, hein, on sait peu que les religions sont au programme, hein, dans les écoles, qu'elles soient publiques ou privées. Mais qu'enseigne-t-on? Qui l'enseigne? Quel professeur? Effectivement, tout ça, c'est un peu vague. Et l'on ressent toujours quand même cet objet, je dirais, de suspicion, Isabelle Saint-Martin, à l'égard de l'enseignement des religions à l'école.
Oui, je crois qu'un point de difficulté est là. On parle, à la suite du rapport de Bray, d'enseigner le fait religieux, disait-il. Nous, à l'IUSR, on a préféré parler au pluriel d'un enseignement des faits religieux, alors que dans l'école laïque française, une représentation qu'on a tous, c'est que Dieu n'a plus sa place à l'école. Je reprends, je cite même le président François Hollande au lendemain des attentats de 2015, qui le rappelait, et qui le rappelait en faisant référence à quelque chose qui est très fondateur et ancien dans l'école de la République en France. Ce sont les lois de Ferry dans les années 1880 et en particulier la loi du 28 mars 1882 qui a mis fin à l'instruction religieuse, à l'histoire sainte, confessionnelle à l'école. L'enseignement confessionnel auquel il a été mis fin, il ne concernait que le catholicisme. Et l'idée d'une école pour tous, d'une scolarité, d'une instruction obligatoire pour tout citoyen, pour tout enfant, supposait bien évidemment qu'on puisse les accepter sans distinction de croyance, d'origine religieuse, de choix convictionnels des parents. Donc, plus d'instruction religieuse, ça ne veut pas dire fin d'une réflexion sur le sens et la morale, et Jules Ferry va y substituer une instruction morale et civique qui n'est pas du tout là pour contrer la religion. Au contraire, il aura même une très belle lettre aux instituteurs où il invite à respecter la conscience fragile de l'élève et à ne rien dire qui puisse choquer un parent d'élève assis au fond de la classe. Donc il y a une sorte de, je dirais, un peu de pacte de non-agression, si vous voulez. On n'en parle pas parce qu'on ne fait plus d'apologétique, de catéchisme à l'école, mais on n'est pas non plus là pour attaquer le système religieux. Donc cette abstention des deux côtés, elle va bien tenir tant qu'il y a un substrat culturel commun qui fait que, pour autant, on est bien obligé dans les cours d'histoire de parler un peu des guerres de religion, des grands événements touchant aux religions. En français, il y a des pages de Pascal, de Bossuet, qui ont toute leur place dans les programmes. Alors ce qui va mettre à mal en fait ce statu quo, c'est plus d'un siècle plus tard, dans les années 1980, quand on voit devant la perte de la culture humaniste, la massification scolaire, l'arrivée de plus grandes classes d'âge au collège et lycée avec l'idée de 80% d'élèves au bac.
L'arrivée de jeunes issus d'immigration aussi.
Absolument, la prise en compte d'une plus grande pluralité religieuse et convictionnelle dans la société française. Tout ça fait qu'il y a une culture humaniste qui s'effrite et que la dimension religieuse de cette culture semble une perte de repères, une perte de culture commune. Et est-ce qu'il faudrait que seul les élèves qui, par leur famille, vont pouvoir garantir ce minimum d'accès culturel y aient droit, ou est-ce qu'on doit penser que tout un chacun doit avoir accès à ce patrimoine mondial, à ce patrimoine de l'humanité que sont les récits, les œuvres, également les situations historiques où ont été partie prenante les grandes traditions religieuses de l'humanité.
Pour comprendre le présent.
Pour comprendre le présent, pour comprendre le patrimoine, pas au sens où le patrimoine, ça nous emmène très loin dans le passé, mais au sens où le patrimoine est toujours aussi actuel. Et quand j'aborde à la fin de mon livre la question de l'art, c'est aussi parce qu'il y a un double temps de l'art. L'art est toujours situé dans un moment précis, mais en même temps toujours actuel dans le regard du spectateur qui on peut y prendre plaisir, y prendre goût. Et prendre goût à une œuvre d'art, c'est de l'émotionnel, mais cet émotionnel, il est enrichi par le savoir et la connaissance. Donc c'est aussi priver des élèves de toute cette dimension, de ne pas leur donner accès à tout ça.
Et d'ailleurs, il a été question, enfin ce mot, je m'en souviens, analphabétisme religieux.
Voilà, ça a été un mot des années 80-90, voilà. Il y a de premières réflexions à ce moment-là. Et puis, le rapport du philosophe Régis Debré, commandé par le ministre Jack Lang au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, prend en compte aussi un autre aspect, mais qui est lié, tout ça s'imbrique en fait, qui est la dimension du vivre ensemble dans une société pluraliste, avec l'idée que une meilleure connaissance des dimensions religieuses ou non religieuses des uns et des autres contribue au respect mutuel. Et ça va devenir de plus en plus aiguë au lendemain du 11 septembre, avec des cas de contestation de la minute de silence. Et puis on va voir cette thématique revenir après les attentats de 2015, hein, je l'évoquais en répondant à vos questions, et c'est ce côté un petit peu serpent de mer, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des difficultés, on se dit, mais est-ce que une meilleure connaissance des faits religieux pourrait contribuer à cette question que j'aime pas beaucoup, mais enfin le mot a fait florès, du vivre ensemble.
Oui, il y a aussi effectivement, on s'en souvient, il y a aussi l'affaire du foulard de Creil en 1989. Voilà. Ça, c'est un élément important aussi à prendre en compte.
Tout à fait, c'est un élément parallèle au débat des années 80 que j'évoquais, mais bien sûr, c'est pas sans lien. C'est la recrudescence, l'importance de manifestations religieuses, y compris dans le cadre scolaire. Alors, c'est pas tout à fait la même chose. Moi, je me suis située sur l'enseignement et les programmes. Il y a aussi la question du vécu scolaire. Mais les deux interfèrent dans la mesure où certaines difficultés que peuvent avoir les enseignants à aborder ces questions, et je parle surtout des trois monothéismes dans mon livre, parce que quand on aborde, c'est très important bien sûr de le faire, les religions de l'Antiquité, il n'y a pas la même crainte. Et quand on aborde des religions encore vivantes aujourd'hui, eh bien, les enseignants peuvent, à juste titre, redouter de faire entrer dans la classe des conflits extérieurs, des tensions, les dimensions d'affrontement, et puis cette forme qu'on a appelée un retour du religieux. Alors, vous savez que l'expression est contestable, disons, c'est de nouvelles manifestations du religieux et des revendications identitaires, notamment chez les jeunes adolescents. Mais il me semble que ne pas en parler sous prétexte que ça pourrait faire peur, c'est difficile, il y a de l'affrontement, c'est jamais la bonne solution. Quand on est dans le déni, on laisse les soupapes de sécurité ailleurs. Et je crois que, au contraire, aborder ces faits religieux en classe, c'est pouvoir les contextualiser, c'est pouvoir donner une dimension historique, c'est une approche qui devrait pouvoir être moins passionnelle. Il s'agit pas de confronter le vécu de chacun. L'enseignement des faits religieux, c'est pas dire à tel ou tel élève, tiens, viens nous présenter ta religion. Le professeur reste à sa place. C'est lui qui a le savoir, c'est lui qui est formé. Aussi bien sur ça que sur le reste, nul n'est omniscient. Un professeur n'est jamais parfaitement formé sur tous les moments de l'histoire, sur tous les textes de la littérature. On se forme en fonction du cours qu'on a à faire et de sa classe. Mais au moins, à partir de là, on a des éléments pour discuter, pour éventuellement conduire, ça c'est ce qui est proposé en enseignement moral et civique, un débat argumenté. Et par exemple, la question du voile est proposée en débat argumenté aujourd'hui dans les classes, en enseignement moral et civique, en invitant des élèves à argumenter dans un sens ou dans l'autre.
Alors, qui enseigne précisément le fait religieux, ou plutôt les faits religieux, puisque c'est le terme très diplomatique, du reste, qui a été choisi, retenu dans ce rapport de Régis Debray. Qui enseigne? C'est le professeur d'histoire essentiellement, parce qu'il n'y a pas de cours spécifique. Et d'ailleurs, Régis Debray avait dit, ça serait une erreur de créer un cours spécifique.
Le choix qui a été fait depuis le débat des années 1980 par le ministère en France, le ministère de l'Éducation nationale, c'est de passer par les disciplines existantes et pas de créer une nouvelle discipline. Et c'est pourquoi on ne peut pas parler d'un cours d'histoire des religions. On saisit ces faits religieux, on saisit ces dimensions religieuses en histoire, en lettres, en philosophie avec la notion de religion, dans les cours de langue, par exemple, est-ce qu'un professeur d'anglais a le droit d'étudier des Christmas à Noël? Est-ce qu'un professeur d'espagnol a le droit d'évoquer les processions de la Semaine Sainte, etc. Vous voyez, donc...
Alors, il a le droit, il a le droit.
C'est pas du tout une entorse à la laïcité. C'est au contraire mettre en œuvre l'esprit de la laïcité que de considérer, je cite la charte de la laïcité, cité à l'école, article 12, qu'il n'y a pas de domaine du savoir qui soit exclu du champ de la connaissance à l'école. On ne peut pas dire « ah ça c'est tabou, ça c'est réservé, on n'en parle pas ». Et les élèves ne peuvent pas objecter leur religion ou irreligion pour refuser un élément du cours qui est au programme. Voyez, donc on passe par les disciplines. Alors ce choix français, il a plusieurs raisons. Il a été justifié de différentes manières. On peut reconnaître que les journées des petits élèves français sont déjà très denses, très chargées. Et donc actuellement, la logique depuis plusieurs années, plusieurs décennies, la logique, c'est plutôt d'essayer, je dis bien d'essayer, une simplification et de éviter l'émiettement des horaires. Et Régis Debray disait, ça serait une petite matière parmi d'autres, ça serait un mauvais service à lui rendre. Moi, je peux faire la comparaison avec l'histoire des arts. Quand l'histoire des arts a été mise en place, l'histoire des arts pour tous en 2008, on a préféré passer à nouveau par les disciplines et pas rajouter une heure d'histoire des arts. Et pourtant, l'histoire des arts, c'est beaucoup plus consensuel dans l'opinion publique que la question liée aux religions. Alors, c'est vrai qu'il y a à l'arrière-plan de tout ça également une crainte qui est toujours à prendre en compte quand on parle des faits religieux, des religions à l'école. C'est toujours cette double crainte de certains qui redoutent que ça soit une sorte de cheval de Troie déguisé d'un catéchisme, et que en parlant de fait religieux au singulier, même cette expression elle a été critiquée, on soit dans quelque chose qui essentialise une approche du religieux qui obligerait tout le monde à s'inscrire sous ce contexte religieux.
C'est fort encore cette suspicion?
Ah oui, bien sûr.
Vous avez des exemples?
Il y a quelques années, 2-3 ans, un professeur des écoles qui a été sanctionné pour avoir lu des extraits bibliques en primaire. Alors, je vais pas reprendre l'affaire que je ne connais que de loin, mais cette sanction vient d'être levée par le tribunal administratif qui reconnaît qu'il a tout à fait le droit, dans le cadre d'une approche culturelle distancié, qui n'est pas catéchétique, il a été lavé de tout soupçon d'apologétique.
Qui n'est pas prosélyte.
Alors après, on peut discuter, est-ce que c'était les bons textes, enfin, il peut discuter avec son inspecteur, est-ce que c'était bien adapté aux élèves, à l'âge des élèves ou pas, ce sont des questions d'appréciation. Mais tout ça, c'est parce qu'il y avait eu une plainte d'un parent d'élève. Cette crainte, cette suspicion, vous voyez, elle reste sous-jacente, et il peut y avoir des parents de bonne foi qui ne sont pas suffisamment au courant des programmes et de ce qui est proposé pour penser que la laïcité en France, c'est on ne parle absolument pas de religion à l'école. Or, ce n'est pas ça, la laïcité. C'est pas de prosélytisme à l'école, égalité de tous les citoyens selon leurs options croyantes ou non croyantes, place réservée à tous, pas de privilège, mais encore une fois, sous l'angle de la connaissance, du religieux comme objet de culture et pas comme objet de culte, il a toute sa place dans la compréhension à la fois du passé et du présent. Alors la deuxième crainte, à rebours de ça, à rebours de la crainte d'un catéchisme déguisé, c'est la crainte du relativisme, d'un mélange des valeurs, comment on va parler des religions, est-ce qu'il va y avoir des attaques ou des... Or, c'est pas une question de relativisme. Le professeur ne se place pas en concurrence avec un ministre du culte. Il est toujours dans une posture qui est la posture enseignante, la posture du savoir. Il n'est pas là pour faire résonner une parole comme le ferait un catéchète, un ministre du culte. Donc il faut bien être toujours sur cette... Régis Debray parlait d'une ligne de crête. Cette approche ne doit pas faire l'économie du sens et des symboliques. Parce que ça aussi, c'est un reproche qui est fait. Enseigner les faits religieux, ça serait que du factuel, de l'extérieur.
La sociologie.
Quelque chose, voilà.
La géopolitique.
N'est pas religieux dans le religieux.
Évacuer cette dimension-là, oui.
On n'apporte que un facteur géopolitique. Et je crois que le passage par l'art, et c'est une des thèses que je propose, permet d'aborder aussi les significations symboliques, les contenus de croyances, et permet de le faire à travers des œuvres, à travers la médiation d'artefacts, pas nécessairement uniquement le grand art, pas uniquement le Moïse de Michel-Ange quand on veut aborder Moïse, mais également peut-être une représentation de Moïse dans de l'imagerie populaire qu'on trouve dans le judaïsme comme dans l'islam, parce qu'on a parfois l'idée qu'il n'y a absolument aucune image dans ces traditions, c'est pas si vrai, ça dépend des époques et des lieux, et cette approche par l'art, elle permet aussi de rendre sensible à la pluralité interne aux traditions religieuses, aux évolutions dans le temps, dans la géographie, aux contextes, quelles œuvres commandées par qui, par quel groupe, qui en fait quoi, à quel moment ce contexte nous situe toujours dans le concret, oui, dans la réception.
On va en parler, mais on reste quelques instants encore, oui, hein, sur les manuels scolaires. Est-ce que la question de l'enseignement de l'islam est la question la plus problématique? Comment est-elle organisée? Je sais qu'en 5e, effectivement, c'est chrétienté et islam, hein, donc au 6e et 7e siècle, des mondes en contact. Est-ce que ça pose problème ou pas?
L'islam est abordé en 5e, oui, mais ça, je dirais, depuis des décennies. Je dis ça parce que quand il y a eu une polémique lors de la récente proposition des programmes de collège pour dire on donne trop de place à l'islam, non, c'est pas nouveau. L'islam est en 5e vraiment depuis très longtemps, et judaïsme et christianisme, ou plutôt les hébreux, et la question de la place du judaïsme devrait être approfondie, et christianisme en 6e. Donc il faut pas dire que on ne fait que l'islam en 5e, on le fait parce que les autres ont été faits l'année d'avant, vous voyez. Donc là, c'est des questions aussi que parfois des parents se posent. Est-ce que c'est légitime? Est-ce que mon enseignant n'en fait pas trop sur cette question?
Toujours la suspicion parentale, c'est pour certains.
De contexte. Oui. Et selon les formulations des programmes, ça a un petit peu varié. Mais effectivement, il y a quand même une approche qui est tout à fait importante de l'islam, à la fois comme civilisation, culture, mais aussi comme tradition religieuse. Alors, les mondes en contact, c'est vrai qu'on va avoir tendance à privilégier les relations entre les empires, les aspects politiques, les aspects guerriers. C'est intéressant aussi de pouvoir évoquer à travers le temps, les évolutions et la diversité de l'islam. Et une critique qui a été faite, et là je reprends y compris ce qu'a pu dire la présidente du Conseil supérieur des programmes devant l'Assemblée nationale, c'est que parfois, dans les manuels, il y a une tendance un petit peu essentialiste, figée sur les origines, et qui fait toujours la part belle aux vainqueurs, et qui a tendance à privilégier ou donner une dimension absolue à la version du sunnisme, au détriment du chiisme, qui effectivement est minoritaire, mais quand même loin d'être négligeable, et puis d'évoquer cette diversité des contextes de l'islam que les élèves ne risquent pas, hein, de confondre musulmans et arabes, arabes musulmans, c'est deux choses différentes, de savoir qu'un grand pays de l'islam, c'est l'Indonésie, voyez, donc il y a beaucoup d'opportunités, en fait, à travers les programmes, et sans se focaliser uniquement sur l'année de 5e, d'aborder cette question qui est quand même très importante pour comprendre aussi le monde contemporain.
Alors, votre grand dada, si je puis dire, Isabelle Saint-Martin, c'est l'art. L'art au service de la connaissance, donc des religions, et puis l'art aussi pour, allez, j'allais dire, dégonfler un peu parfois ces tensions qu'il peut y avoir autour de l'enseignement des religions.
Alors, c'est pas que mon dada, je veux dire, il y a des enseignants qui le font de façon très précieuse et intéressante. Et c'est pas uniquement au service. Je voudrais essayer de sortir d'une double servitude où ça serait l'art comme, en quelque sorte, illustration.
Oui, ou comme contournement de cette question un peu compliquée.
Voilà. Non, il s'agit au contraire de voir ce que art et religion disent l'un de l'autre et en quoi ça donne une approche féconde, parmi d'autres évidemment, hein, mais qui me semble importante à prendre en compte, parce que justement il faut prendre au sérieux les arts, et je trouve que dans nos programmes scolaires on a parfois du mal à le faire. C'est pas juste pour une option pour culturelle au sens réducteur qu'on pourrait donner à ce terme. Il faut relire les attendus de la mise en place de l'histoire des arts, et même aujourd'hui de la spécialité histoire des arts, qui est vraiment de, à la fois, donner une culture commune, éveiller aussi le regard à comprendre le sens des images, le sens des œuvres, éveiller un regard critique et la dimension émotionnelle à l'égard des œuvres. Et je crois que ça, c'est tout à fait important dans la faculté de penser du citoyen, de l'honnête homme d'aujourd'hui, en quelque sorte.
Merci, Isabelle Saint-Martin. Donc, je rappelle le titre de votre livre, « Peut-on parler des religions à l'école ?» C'est publié chez Albin Michel. Et puis, on terminera sur cette phrase qui est la conclusion, en fait, de votre livre. Vous pariez donc sur le respect mutuel, vous pariez sur la culture, vous pariez sur l'intelligence. Et là, vous citez la phrase de Gabriel Céaille. C'est en 1903, donc 2 ans avant la loi de 1905, où il écrit « Il faut qu'on puisse être athée sans être traité de scélérat et croire en Dieu sans être traité d'imbécile ». Ce sera le mot de la fin. Religion du Monde, Geneviève Delrue, Apolline Verlon-Raison vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.